réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce vendredi 10 juin 2016. Dans un instant, le dernier épisode de notre série consacrée au silence, Écoutez le silence, en compagnie de l'historien Alain Corbin. En deuxième partie, comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on ira faire un tour en Birmanie. À quoi ressemble la Birmanie aujourd'hui ? 2 Français sont allés là-bas, 2 mois, Frédéric Debomy, le scénariste, et le dessinateur Benoît Guillaume. Ils reviennent avec la bande dessinée éditée chez Kombourakis, Birmanie, fragment d'une réalité, et avec une autre bande dessinée d'ailleurs qui a pour titre Sur le fil. On en parle aux alentours de 6h15. Tout de suite, tête chercheuse, Alain Corbin, historien. Écoutez le silence en compagnie d'Alain Corbin, historien, avec nous depuis lundi. Aujourd'hui, dernier épisode de la série en mode silencieux. On est en train de le chercher, le silence, aujourd'hui, Alain Corbin. Paradoxalement, vous allez me dire.
Oui, il y a des êtres qui continuent de chercher le silence. Mais ce n'est pas général, hein, je ne crois pas. Il y a peut-être même de plus en plus, me dit-on, parce que je n'ai pas fait d'études sur ce sujet, de moines, ou de moniales, d'hommes et de femmes, qui vont dans des monastères, pas tous pour rechercher uniquement le silence, comme chez les trappistes ou les chartreux, mais au moins un silence. Ça existe encore. Et il y a une autre catégorie, qui se développe aussi, et qu'a étudié l'historien Antoine de Beck, ce sont les randonneurs. Je l'étais. Lorsque j'avais 35-40 ans, j'ai marché des centaines de kilomètres de suite dans le Massif central à plusieurs reprises.
Avec cette envie, avec cette quête du silence,
C'était pour découvrir, je n'y pensais pas. Mais a posteriori, je me rends compte que traverser le Gévaudan, le Velay, les Causses, c'était une exploration du silence. Bien que je ne l'ai pas fait seul, hein. Ça aurait été plus fort. Antoine de Beck, lorsqu'il traverse des pays, je crois, comme d'autres, d'ailleurs aujourd'hui, c'est assez à la mode, le fait seul. Je pense que c'est que ce soit dit ou que ce ne soit pas dit, c'est une quête. C'est une quête du silence, puisque c'est une quête de la nature silencieuse, donc ça. Mais il y a sans doute d'autres expériences, comme je le disais, il y a tous ceux qui se disent, mais si je méditais, et qui donc décident de faire des temps de méditation dans la journée. J'ai rencontré récemment un photographe qui m'a dit, je ne commence pas une journée sans avoir fait un quart d'heure de silence. Bon, voilà un exemple. Donc, il y a ces chercheurs, vraiment, de silence, que je distinguerai de ceux qui, encore une fois, veulent échapper au tapage. C'est pas suffisant, ça, si vous voulez. Pour être un amateur de silence, aujourd'hui, on est exigeant en ce qui concerne le tapage. C'est-à-dire que dans le TGV, vous ne pouvez pas faire de bruit. Aussitôt, vous déclenchez une émeute, si je veux dire. Alors que...
Il arrive encore que des gens répondent à leur téléphone sans quitter le...
Oui, mais je me souviens d'une période d'abord où les trains étaient plus bruyants, et où il était vraiment, c'était une impolitesse en entrant dans un wagon, dans un compartiment, de ne pas adresser la parole aux gens qui y étaient déjà, et de ne pas tenter une conversation avec ces mêmes personnes. C'était en quelque sorte le reste des conversations de la calèche du 19e, de l'omnibus ou des transports du 19e siècle. On voit ça encore dans les westerns, hein, si vous voulez, qui fait que les gens qui sont à l'intérieur du compartiment ou de la voiture se parlent.
Alors qu'aujourd'hui, on vit ce paradoxe, c'est-à-dire quand on est dans un train et quand on a envie de dormir, c'est la voix justement officielle de quelqu'un du train, d'un responsable, qui nous dit s'il vous plaît, ne dérangez pas vos voisins si vous voulez passer un coup de fil. Les plateformes sont là pour ça.
Oui.
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce que ça dit de notre époque?
Ben, ça dit justement que c'est curieux parce que ce n'est pas que les gens qui sont dans le wagon veuillent absolument faire silence, mais ils veulent être tranquilles pour pouvoir lire, je crois surtout.
Ou dormir,
mais pas tellement pour contempler. Je me souviens d'un collègue qui me disait que dans un train, il ne lisait jamais. Il ne dormait pas, il contemplait. Le paysage, c'est déjà une forme, en quelque sorte, de silence. Oui, il y en a d'autres encore. J'ai parlé des randonneurs, j'ai parlé des moines, j'ai parlé de ceux qui cherchent, en quelque sorte, des expériences de silence. Mais il doit y avoir d'autres cas chez les artistes,
les danseurs,
la concentration,
avec la concentration,
les écrivains, les poètes. Il y a des poètes qui sont comme Jacoté aujourd'hui en France, enfin je veux dire par les poètes français, Jacoté, Jacques Reda, ce sont des gens qui visiblement, ou le romancier Quignard, c'est même, oui, ce sont des gens dont les œuvres sont pétries de silence et que, bien entendu, ils sont eux-mêmes, et objectivement et obligatoirement, des chercheurs.
Mais de quel silence parlez-vous aujourd'hui quand vous parlez de silence, Alain Corbin ? Les silences de l'amour ? Les silences de la haine, les silences de l'apaisement ou les silences de l'abandon?
Alors, les silences de l'apaisement, oui, il est évident.
Pour vous, c'est ça la définition du silence?
Oui, par exemple, dans la nature, les prairies, etc., ce sont des silences d'apaisement. Hein, ça a été dit et répété. Mais vous m'avez demandé quels étaient
les autres silences, ceux de la haine.
Le silence de la haine, bon, c'est un thème. C'est un thème qui est développé au 19e et surtout au 20e siècle. Le silence dans les couples. Le silence peut conduire au crime. C'est l'objet du film de du roman de Mauriac, Thérèse Escuérou. Il y a des multiples silences qui l'incitent au crime.
Vous avez même cité le silence entre Simone Signoret et Jean Gabin.
Le chat de Granier de Fer.
D'après Simon.
Mais l'historien Frédéric Chauveau vient de publier un livre sur l'histoire de la haine et il consacre plusieurs pages au silence. Et il dit que, tout à fait paradoxalement, le silence entre les deux membres d'un couple qui se haïssent peut être un ciment. On continue comme ça, il n'y aura pas d'histoire, si vous voulez, et qu'il n'y a pas de raison de se séparer. Hein, vous voyez, c'est assez subtil, mais il a tiré ça des archives judiciaires. Ça finit mal en général quand même, mais ça peut être un ciment. On a l'habitude, quoi. On a l'habitude de ce silence qui s'est installé à un moment donné entre l'homme et la femme.
Et vous-même, Alain Corbin, pour terminer cet entretien, quelle relation avez-vous eue avec le silence ou le désir de silence? Est-ce que ça a évolué avec le temps, par exemple?
Oh, bon, j'ai eu une éducation extrêmement forte dans le domaine du silence, dans le bocage normand, regardant par la fenêtre ce qui se passait sur la place.
Mais ce silence, vous l'avez subi ou
Non, j'aimais bien. Enfin, il me semble, à posteriori, que ça me permettait de rêver, de penser, etc. J'ai subi, alors, par contre, un silence à l'école, primaire et secondaire, très fort, oui. Donc, j'ai une culture du silence, comme je vous avais dit, je n'étais pas loin de la Trappe, j'ai visité la Trappe alors que j'étais encore assez jeune, et j'ai toujours gardé, je me suis pas interrogé là-dessus, mais un tempérament qui était plutôt silencieux, oui. L'un dans l'autre, mais aujourd'hui, je m'en félicite, quoi.
Il y a une différence entre être taiseux et silencieux.
Oui, parce que taiseux, en général, ça veut dire celui qui se tait par tactique. Ça remonte à la société de cour des temps modernes ou à l'attitude des paysans du 19e siècle.
Alors, pourquoi le silencieux, il est naïf et pur par définition?
Oui, c'est quand même c'est quelqu'un qui est un peu raffiné, qui cherche à entendre les textures du silence. Ça implique un certain raffinement, hein, ça, c'est évident. Mais c'est pas non plus quelqu'un de supérieur aux autres pour autant. Hein, je ne veux pas.
À quel moment vous avez un désir de silence?
Oh, c'est un peu permanent. Je veux dire que ça peut arriver n'importe quand, au cours d'une journée, un désir de silence. Il est fréquent, évidemment, pour s'endormir, on a le désir de silence, comme tout le monde. Le matin, c'est pas mal de se réveiller et de s'accorder un temps de silence, oui. Mais... Alors, il y a le problème du lien entre le silence et la solitude. Je ne vis pas dans la solitude, hein. Mais il faudra encore en parler de ça, du silence subi, peut-être plus qu'espéré dans la solitude. On le dit souvent à propos des gens d'âge mûr qui sont isolés, hein, qu'il faut aller voir pour leur parler, pour rompre le silence. Je sais pas.
Vous arrive-t-il d'aller chercher le silence ailleurs que chez vous?
Non. Non, j'ai la chance d'habiter un endroit très silencieux.
Vous l'avez choisi pour ça?
Non, c'est un peu, mais je veux dire, ça se trouve comme ça. Je n'entends pas les voisins. Ce qui, à Paris, est assez rare, paraît-il. Oui, j'aime bien. Si je songe à aller dans la campagne l'été, dans les maisons de famille ou dans des régions maintenant à mon âge que j'ai connues. Que j'ai connu enfant, c'est peut-être aussi dans le domaine de la réminiscence du choc mémoratif. C'est-à-dire que peut-être que le silence de l'enfance ou de la jeunesse retrouvée est assez agréable. C'est pour ça que je pense que on a, à mon âge, intérêt à retrouver des silences du passé, des silences déjà éprouvés, encore une fois, de l'ordre de la réminiscence, qui est aussi choc mémoratif. Je distingue bien les deux. La réminiscence, c'est se souvenir de quelque chose. Le choc mémoratif, c'est de rendre le passé présent. Hein, c'est la petite madeleine de...
Pas aller, mais justement, c'est quoi votre petite madeleine du silence?
Ah, ce serait peut-être ça, hein, c'est-à-dire les prés du bocage.
Vous arrive-t-il de rêver en silence?
On ne sait pas ça.
Vos rêves, ils sont silencieux?
Non, mais le rêve nocturne, pas la rêverie. Hein. Oui. Le rêve, non, le rêve... Vous trouvez que le rêve est silencieux?
Je vous pose la question.
Non, il se passe des choses dans le rêve. Je ne sais pas. Non, on ne rêve pas. Je ne pense pas qu'on... En tout cas, c'est mon cas. Je ne pense pas qu'on puisse rêver au silence.
Et enfin, pour terminer, Alain Corbin, est-ce qu'il y a une œuvre d'art, un tableau, une symphonie, un livre, un poème, où vous trouvez le silence idéal?
Le silence idéal, sans doute pas. Le silence très fort, oui, dans des tableaux de Rembrandt. Je ne suis pas le seul, hein, parce que Claudel a beaucoup développé ce silence de la ronde de nuit, etc. Et parmi les tableaux de Rembrandt, il y en a un, je ne sais pas si vous le connaissez, qui me semble très fort, un silence entre père et fils. C'est le silence du retour de l'enfant prodigue.
À retrouver à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. On peut faire des clics très silencieux, Alain Corbin. Enfin, je vous dis ça, mais je sais très bien que vous n'avez pas d'ordinateur. Tout est silencieux chez vous? Vous écoutez la radio?
Oh oui, oui. La télévision aussi.
Ça a été un plaisir de vous avoir cette semaine. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage édité par Albin Michel, Histoire du silence de la Renaissance à nos jours. Merci Alain Corbin.
Merci.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée avec aujourd'hui une question politique, géopolitique même. À quoi ressemble la Birmanie d'aujourd'hui? Longtemps considérée comme une dictature, ce pays a priori insaisissable est en train de changer, notamment depuis que le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, n'est plus emprisonnée et qu'elle peut se présenter à des élections. Est-ce à dire que le pays s'achemine vers un modèle démocratique? Rien n'est moins sûr et tout est complexe, comme on peut le constater avec Benoît Guillaume et Frédéric Debony, nos deux invités ce matin, qui eux sont partis 2 mois en Birmanie pour voir à quoi ressemble la vie quotidienne et pour donner la parole à des militants politiques, des groupes armés, des étudiants même en grève, des moines, des extrémistes bouddhistes, parce que ça existe. On découvre ça à travers ce reportage en bande dessinée édité par Kangourakis qui a pour titre « Birmanie, fragment d'une réalité ». Frédéric Debomy, vous êtes le scénariste et vous êtes à Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Et le dessinateur qui est marseillais et lui avec nous à Paris, Benoît Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Alors, s'il fallait parler de cette bande dessinée, est-ce que Frédéric Debomy, c'est parti d'un engagement personnel, un engagement politique?
Oui, c'est un engagement ancien dont témoigne un autre livre que nous avons fait aussi sur le fil. J'ai été l'un de ceux qui ont soutenu le mouvement démocratique birman en France, en m'occupant d'une association, en menant divers projets. Et donc, j'ai connu la période de la dictature dure, disons. Et depuis 2011, il y a une ouverture du régime. Et qu'est-ce que c'est que cette ouverture? C'est une chose à laquelle on a essayé de répondre, puisque... Alors, quand il y a eu les prémices, les premiers moments de cette ouverture, certains disaient c'est une communication du régime mensongère, en fait rien ne change. D'autres disaient ça y est, c'est la perestroïka birmane, c'est le printemps birman en référence au printemps arabe. Bon, c'était ni l'un ni l'autre, on est dans une zone justement à comprendre et donc on est allé sur place pour essayer de dire où en était la Birmanie aujourd'hui, en rencontrant un maximum de gens.
Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez obtenir les visas plutôt rapidement. Il n'y a pas d'entrave à ce voyage. Comment il va se passer ce voyage?
Alors ce que vous dites, c'est intéressant, parce qu'en fait, toutes les années où j'étais militant, disons, de cette cause, je prenais jamais mon visa à Paris, j'allais à Bangkok, à l'ambassade de Bangkok, la Thaïlande est à une frontière avec la Birmanie, et en espérant que mon nom ne soit pas inscrit sur la liste noire, et contrairement à certains camarades, j'ai eu la chance de ne jamais être inscrit sur la liste noire, mais j'entrais avec un visa touriste pour faire en vérité tout autre chose, aller voir des opposants, etc. Maintenant, on entre facilement, on a même eu le visa 3 fois, puisqu'il a fallu le renouveler pour... puisqu'on est resté 2 mois avec le visa de 28 jours en Birmanie, donc il a fallu le renouveler, on n'a eu aucun souci à aucun moment. Et de toute façon, c'est vrai que la situation s'est améliorée. Alors, c'est pas la même chose à tous les endroits, mais si on prend la ville de Rangoon, l'ancienne capitale, qui reste dans une certaine mesure encore la capitale du pays. La surveillance est nettement relâchée, c'est le moins qu'on puisse dire, et les gens parlent de politique dans la rue assez librement, ce qui était impensable il y a quelques années.
Alors, ce qu'on découvre en lisant votre reportage en bande dessinée, c'est que la situation est très complexe. Hein. Je veux dire que on peut rencontrer des militants des droits de l'homme qui vont tenir un discours plutôt progressiste, et pour certains sujets, par exemple pour la minorité musulmane en Birmanie, vont se transformer en réactionnaire, pour ne pas dire en xénophobe.
Oui, on voit qu'il y a un blocage psychologique avec Benoît. On avait pensé l'un et l'autre à la question des Roms, en fait. Quand vous vous trouvez en Bulgarie ou en Roumanie,
ouais, c'est le parallèle
vous parlez
que
avec
vous
des
dressez,
gens.
Ouais.
Voilà, vous parlez avec des gens avec qui vous avez l'impression de tout partager, qui sont ouverts, qui sont intelligents, et puis sur cette question-là, il y a un blocage. Et en Birmanie, c'est sur la question... Alors, il y a déjà les musulmans en général, mais plus particulièrement une minorité musulmane qui sont les Rohingyas, considérés par l'ONU comme l'une des plus persécutées au monde, rien de moins. Et effectivement, là, ils sont même pas considérés par beaucoup de bouddhistes, puisque c'est un pays à majorité bouddhiste, comme des nationaux. Il y a l'idée qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils doivent y retourner. Donc, c'est... Il y a là un vrai blocage, et les moines extrémistes qui ont une rhétorique anti-musulmane trouvent un écho dans la population. Je dis pas toute la population, mais un écho quand même assez important, même si on n'arrive pas à le quantifier non plus exactement, mais tout de même assez important. Ça, on en a des signes visibles. Parce qu'il y a cette idée aussi en Birmanie qu'être birman, c'est être bouddhiste.
Benoît Guillaume, ouais. À quoi ressemble la Birmanie?
Je vais commencer par une comparaison qui sera valable pour les personnes qui ont voyagé un peu en Asie, mais ça m'a quand même rappelé notamment le Cambodge, le Laos, qui sont des pays d'Asie du Sud-Est, assez semblables, mais aussi assez peu développés. Je vais reprendre aussi une remarque qu'on a fait dans le livre, qui est qu'il y a 50 ou 60 ans, la Birmanie était considérée comme un des pays les plus prometteurs au niveau économique d'Asie. Or, en 1963, si je ne me trompe pas, le coup d'État a eu lieu, et depuis, les généraux ont exploité le pays, il s'est pas du tout développé. Le pays est peuplé de villages où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Et même si les villes sont évidemment plus modernes, le pays a beaucoup de retard à rattraper, entre guillemets.
C'est une tradition encore... c'est une société encore rurale, la Birmanie d'aujourd'hui?
Oui, extrêmement rurale.
Oui, essentiellement.
Ouais. Essentiellement. Alors, qu'est-ce qui a bougé ces dernières années? Frédéric de Gomis.
Ayant été donc militant de cette cause, j'ai jamais été ni optimiste ni pessimiste, en fait, et parce que l'histoire est jamais écrite, et parce qu'il se produit de l'inattendu, en fait. Cette ouverture en 2011, ce début d'ouverture en 2011, dont il faudra dire les limites aussi, hein, mais c'est quelque chose qui n'avait pas été pronostiqué. Il se passe des choses comme ça qu'on n'attend pas, donc des raisons d'être optimiste, eh ben le simple fait qu'Aung San Suu Kyi soit vivante, qu'elle soit aujourd'hui à la tête de l'État, même si elle n'est pas officiellement à la tête de l'État, on sait bien que c'est elle qui a le pouvoir, et que le président birman est un fidèle choisi pour sa fidélité, justement, pour la confiance qu'on lui accorde. Alors là, ça vaut peut-être une explication, c'est que il est interdit par la Constitution à une personne qui a des enfants étrangers ou qui est mariée à un étranger d'accéder aux plus hautes fonctions, d'être le chef de l'État.
Voilà, c'est une loi qui a été faite. Ce qui est le cas pour Aung San Suu Kyi.
Et la loi a été rédigée en partie, au moins à son attention, évidemment. Mais son parti a gagné les dernières élections, qui ont été organisées de manière à peu près correcte. Et donc, aujourd'hui, elle est ministre et le président est un ami à elle, fidèle. Donc, on sait que c'est elle qui... qui aujourd'hui, en somme, dirige le pays. Mais elle le dirige pas tout à fait seule. Là, on n'est pas dans un basculement vers la démocratie. Les militaires sont toujours là. La Constitution garantit 25% des sièges au Parlement donnés aux militaires, donc des députés non élus. Et il y a un certain nombre de dispositions dans la Constitution qui font que l'armée a toujours un pouvoir tout à fait important.
Alors, Benoît Guillaume, comment vous avez travaillé cette bande dessinée ?
En fait, on a fait environ un quart du livre sur place. C'est-à-dire qu'on a réalisé, dessiné, je crois, entre 35 et 40 pages sur place. On est rentré, on a continué à travailler. Frédéric avait avancé le scénario entre-temps. Mais évidemment, ça prend un peu plus de temps à écrire qu'ensuite à dessiner.
Voilà. Mais quand vous dites scénario, on a l'impression que ça renvoie à une fiction. Or, ce n'est qu'un reportage journalistique.
C'est vrai, mais oui, effectivement, il y a une différence. Mais même dans un reportage journalistique comme ça, il y a une mise en scène. Mmh. Donc, Frédéric pense également en termes de scène, en introduction de cette scène, tu vas nous montrer qui marche dans la rue et on va introduire la scène en parlant de ci ou de ça.
Et très vite, l'idée de vous mettre en scène vous-même, en situation, est arrivée ou c'est plutôt un choix de l'éditeur Cambourakis ?
C'était une idée qui était là initialement. On a présenté le livre à Frédéric Cambourakis, notre éditeur, une fois bien avancé, de toute façon, on n'avait pas effectué d'autres changements, même s'il restait beaucoup de travail. Et comme vous disiez, il y a eu tout un travail de recul, une fois sur place, une fois revenu en France, puisque la situation politique continuait à avancer. On a attendu l'échéance des élections pour rédiger la conclusion. Voilà, il y a eu aussi du recul.
Frédéric de Baumier, vous voulez rajouter quelque chose sur la manière que vous avez eue d'appréhender la Birmanie d'aujourd'hui et en rendre compte dans cette bande dessinée ?
Le modèle birman, il reste à inventer. Il y avait eu pendant des années la voie birmane vers le socialisme qui avait été une catastrophe. Il y avait eu ensuite un capitalisme de connivence entre l'armée et des hommes d'affaires qui en étaient proches. Mais il n'y a pas eu de politique économique rationnelle, bien construite dans ce pays depuis des décennies. Donc c'est quelque chose qui reste à inventer et qui, espérons-le, s'invente en ce moment dans les réflexions de ceux qui accèdent enfin au règne du pays, avec la présence de l'armée, certes.
Frédéric de Baumy, merci. Je rappelle que vous êtes le scénariste de cette bande dessinée, Birmanie, fragment d'une réalité, dessinée par Benoît Guillaume, et toujours chez Cambourakis, sur le fil, avec en plus les dessins de Sylvain Victor. Merci beaucoup à vous deux. Merci Benoît Guillaume.
Merci.
Merci Frédéric de Baumy.
Merci.
C'était Un autre jour est possible, préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique à Paris Jean-Michel Bernot et à Montpellier Thierry Montèche. On se retrouve lundi avec une série consacrée aux Shadox. Pour les moins de 40 ans, ça ne dit absolument rien, mais pour les autres, je suis sûr que vous serez très nombreux à être à l'écoute lundi à 6h du matin. Bon vendredi et bon week-end sur France Culture.